Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des Conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral. Bienvenue dans votre émission de conte. Ce mois-ci, nous accueillons Jean-Yves et Brigitte. Simplement pour introduire leur récit, je dirais que Jean-Yves a choisi des contes randonnées, c'est-à-dire avec une formule répétée tout au long de l'histoire, comme un refrain. Brigitte, quant à elle, nous emporte dans le merveilleux. Je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute!
Le mariage. Aurélie est une belle jeune fille dont les parents possèdent quelques biens. Sébastien, grand et vigoureux jeune homme dont les parents possèdent de multiples biens, dont un château à la sortie de la ville. Ce jour-là, Aurélie se promène sur le chemin menant au château. Ce même jour, à la même heure, Sébastien, sur son cheval, se rend à la ville. Les deux jeunes gens se croisent, et là, surgit du fossé, un petit ange joufflu, muni d'un arc et de deux flèches. Il envoie une flèche dans le cœur d'Aurélie, une autre dans le cœur de Sébastien. Sébastien descend de son cheval, va au-devant d'Aurélie, lui prend les mains, et là, les deux jeunes gens se promettent amour et fidélité toute leur vie durant. Une date de mariage est fixée et les préparatifs vont bon train. Mais Sébastien, le pauvre Sébastien, en voulant forger un fer à son cheval, de la forge jaillit une étincelle qui lui crève l'œil. Les parents de Sébastien immédiatement font confectionner un œil en verre d'un plus beau bleu, quelque peu différent, mais qui conserve à Sébastien son regard intelligent. Les parents d'Aurélie, par contre, essayent de dissuader leur fille de ne point épouser un borgne. Mais Aurélie leur répond qu'il serait inélégant de ne point épouser le pauvre Sébastien, auquel elle conserve d'ailleurs tout son amour. Une nouvelle date de mariage est fixée, et les préparatifs vont bon train. Mais Sébastien, le pauvre Sébastien, en voulant réparer la mangeoire de son cheval, s'empare d'une grande scie, la scie dérape, et il se coupe le bras. Évidemment, les parents d'Aurélie essayent de dissuader leur fille de ne point épouser un borgne et de surcroît manchot. Mais Aurélie leur rétorque que serait inélégant de sa part de ne point épouser ce pauvre Sébastien, auquel elle conserve d'ailleurs tout son amour. Une nouvelle date de mariage est fixée et les préparatifs vont bon train. Mais Sébastien, ce pauvre Sébastien, en voulant monter sur son cheval, il manque de tomber et en définitive tombe et se brise la jambe. On fait venir le chirurgien de la ville qui malheureusement diagnostique un début de gangrène et lui coupe la jambe. Les parents d'Aurélie essaye une nouvelle fois de dissuader leur fille de ne point épouser un borgne, manchot et de surcroît unijambiste. Mais Aurélie leur rétorque qu'il serait inélégant de sa part de ne point épouser ce pauvre Sébastien auquel elle conserve d'ailleurs tout son amour. Une nouvelle date de mariage est fixée et les préparatifs vont bon train. Mais Sébastien, ce pauvre Sébastien, en voulant à nouveau monter sur son cheval, il se manque et tombe lourdement sur le sol et se brise la deuxième jambe. Le chirurgien alerté détecte à nouveau un début de gangrène et lui coupe la deuxième jambe. Les parents de Sébastien, ne manquant pas d'imagination, font confectionner à Sébastien un beau petit chariot avec quatre roues Et d'une façon quasi naturelle, Sébastien peut à nouveau se promener dans les jardins du château et dans les couloirs. Les parents d'Aurélie essayent de dissuader à nouveau leur fille de ne point épouser un borgne, manchot et cul-de-jatte. Mais Aurélie leur répond qu'il serait inélégant de sa part de ne point épouser ce pauvre Sébastien, auquel elle conserve d'ailleurs tout son amour. Une nouvelle date de mariage est fixée et les préparatifs vont bon train. Mais, le jour du mariage arrive. Et auparavant, on a confectionné à Aurélie une belle petite robe. C'est vrai qu'Aurélie est tellement belle qu'à rien ne lui va. Pour Sébastien, ça a été un peu plus compliqué. Mais avec quelques retouches, on lui a confectionné un gentil costume couleur pied de poule. Et le jour du mariage est là. On a vu Aurélie et Sébastien entrer dans l'église sous les vivats de la foule de la ville. Les vœux se sont prononcés. Ah, quelle joie dans l'église! Les vivats! Sébastien et Aurélie se regardaient. Leur cœur battait. Et le cœur de Sébastien s'est mis à battre, à battre, à battre, à battre tellement fort que son cœur a éclaté. Et c'est là qu'on a vu sortir de l'église un jeune épousé déjà mort et une jeune épousée déjà veuve. Mais vous me direz, Aurélie, qu'est-elle devenue? Eh bien, elle est devenue riche, mais un autre époux n'a pu trouver. Allez donc savoir pourquoi.
La fourmi amoureuse. Dans un pays très lointain, il y avait un roi. Ce roi aimait se promener sur les sentiers du désert de son royaume. Ce matin-là, il arrive à proximité d'une fourmilière. Toutes les fourmis cessent leur besogne pour venir saluer l'empreinte de ses pas. Toutes sauf une. Le roi la remarque, il s'approche d'elle. Elle est au pied d'un immense monticule de sable. « Que fais-tu donc, bête minuscule ? Ô roi des rois, je déplace ce tas de sable grain par grain. Courageuse fourmi, cette tâche est immense, tu vas y user toute ta patience. Peut-être même que ta vie n'y suffira pas. Grand roi, ce tas de sable me sépare de ma bien-aimée. Alors, même si j'use toute ma patience, même si j'y passe toute ma vie, au moins j'aurai fait l'expérience de la douce folie de l'espérance. » Ainsi vient de parler la fourmi. Le roi se tait. Ce jour-là, sur les sentiers du désert de son royaume, il vient de comprendre ce qu'est la puissance de l'amour véritable.
La mouche. Séraphin Fifoucole, paysan l'été à Grand-Villard, est aussi mineur l'hiver. Là, heureux d'avoir fait une belle moisson, il s'est installé dehors devant chez lui et sur une petite table a mis un grand verre de vin. C'est une coutume chez lui, tous les soirs, quand il a bien travaillé, heureux de lui-même, s'installe devant son verre de vin. et il sait attendre. Il sait se faire plaisir. Mais il n'est pas le seul. Il y a une mouche qui tourne autour du verre de vin et aussi envie de goûter à ce nectar. Séraphin chasse la mouche, mais la mouche revient. Il rechasse la mouche et la mouche revient. Et vous savez ce que c'est, au bout d'un temps, eh bien, on se lasse. Et Séraphin a pris son verre de vin, et il a avalé le vin et la mouche. La mouche, heureuse mais quelque peu ivre dans son ventre, se met à bourdonner, et le pauvre Séraphin bourdonne aussi. Que faire quand on a la maladie de la mouche qui bourdonne? Allez voir le docteur. Le docteur Tartemouche, le docteur du Grand Villard. « Ah, Séraphin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu me parais tout bizarre. Eh bien, voilà, docteur, j'ai avalé un verre de vin et une mouche avec, et maintenant je bourdonne. Que faire ?»« Ah, mon pauvre ami, mon pauvre ami. » Le docteur a ouvert son vidal et a cherché... à l'endroit où on peut trouver la maladie de la mouche qui bourdonne, n'a rien trouvé, mais son imagination a commencé à travailler. Ah, mon ami, mais que faire, que faire? Eh bien, voilà, ce que tu vas faire, c'est trouver une grenouille, l'avaler, qui avalera la mouche qui avalait ton vin, que toi-même tu as avalé. Avaler une grenouille, docteur, vivante? « Oui, Séraphin, fais !» Et Séraphin, il est parti au bord du canal Neuf, et puis là, il y a une petite mare, et une grenouille était là, comme si elle attendait. Séraphin s'est penché, ouvert grand la bouche, et avalé la grenouille. Immédiatement, il s'est arrêté de bourdonner. Quel bonheur! Mais la grenouille, tellement heureuse d'avoir avalé la mouche, s'est mise à sauter, et Séraphin aussi s'est mise à sauter. Que faire quand on a la maladie de la grenouille qui saute? On va voir le médecin. Docteur, docteur, voilà, j'ai avalé la grenouille qui avalait la mouche, qui avalait le verre de vin que moi-même j'ai avalé, mais maintenant je saute. Que faire? Ah, 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 mon pauvre ami, et vraiment il t'arrive des choses bizarres aujourd'hui. Eh bien, je ne vois qu'une solution. Il faudrait que tu trouves une couleuvre. Une couleuvre qui avalera la grenouille, qui avalait la mouche, qui avalait le verre de vin, que toi-même tu avalais, et tu seras guéri. Avaler une couleuvre, docteur? Avaler une couleuvre? C'est vrai que le Séraphin a des couleuvres, il en avait avalé quelques-unes dans sa vie, mais celle-là. Mais le docteur a dit, alors il est parti à nouveau au bord du canal Neuf. La petite mare était là, et quand il y a des grenouilles, il y a des couleuvres. Et justement, il y en a une qui était là, levée, comme si elle attendait. Alors Séraphin s'est penché, et il a avalé la couleuvre. Immédiatement, il s'est arrêté de sauter. Ah, quel bonheur! Mais la couleuvre, tellement heureuse d'avoir absorbé un repas de 3 semaines, s'est mise à siffler de joie. Et le pauvre Séraphin est retourné voir le docteur en lui disant « Docteur, docteur, j'ai fait ce que vous avez dit, mais maintenant je siffle !» Ah, mon pauvre ami, quelle solution à la maladie? Ah, écoute, j'ai une solution qui va te sembler un peu compliquée, mais il faut que tu trouves un petit sanglier. Un petit sanglier qui avalera la couleuvre, qui avalait la grenouille, qui avalait la mouche, qui avalait ton vin que toi-même tu as avalé. Avaler un sanglier, docteur? Mais vous n'y pensez pas, c'est pas possible. Écoute, mon ami, quand on veut, on peut. et le pauvre Séraphin est parti à nouveau au bord du canal Neuf, vers la mare, et là, c'était vraiment son jour de chance. Il y avait un jeune sanglier qui était endormi. Il s'est penché, a ouvert plus grand la bouche qu'il n'avait jamais ouvert de sa vie, et il a avalé le sanglier. Immédiatement, il s'est arrêté de siffler. Mais le sanglier, heureux d'avoir absorbé cette belle couleuvre, s'est mis à grogner de joie. Et le pauvre Séraphin est retourné voir le docteur en grognant. « Oh, doucement, Séraphin, qu'est-ce qui t'arrive ? Eh bien, j'ai fait ce que vous m'avez dit, docteur. J'ai avalé le sanglier qui avait avalé la couleuvre, qui avait avalé la grenouille, qui avait avalé la mouche, qui avait avalé mon verre de vin que moi-même j'ai avalé, mais maintenant je grogne. Ah, mon pauvre ami, que faire ? Eh bien, il y a une solution. Il faudrait que tu trouves un chasseur avec un fusil. Un chasseur avec un fusil, docteur ? Et là, au-dessus de la tête du docteur Tartemouche, il y avait des trophées de chasse. Et en dessous, eh bien, un fusil. Alors le Séraphin s'est précipité sur le bureau et il a avalé le docteur Tartemouche et son fusil. Et là, on a entendu un grand boum et notre Séraphin a été, cette fois, délivré de tous ses maux. Vous me direz que cette histoire est un peu étrange, mais ce que je peux vous garantir, c'est que tout est exact, sauf quelques petites choses qui n'y seraient pas.
Les arbres et les rivières. Il était une fois un garçon et une fille qui s'aimaient d'amitié. Le garçon vivait dans une petite maison aux abords d'une forêt. Il y habitait avec son oncle, un bûcheron braillard et malfaisant. Chaque jour, le garçon devait aller dans la forêt pour y couper du bois jusqu'au soir. Mais le midi, il retrouvait son amie au bord du fleuve. Elle cherchait des poissons derrière les rochers et elle en trouvait qu'elle rapportait à sa famille pour la nourrir. Il arrivait que le garçon annonce à son ami que le lendemain se jouerait un jour ailleurs. Le lendemain, un jour ailleurs, il se racontait leur rêve. Ce jour-là, le garçon lui dit « Hier, j'ai rêvé que tu étais un poisson aux écailles d'or. Tu remontais le cours du fleuve et tous les autres poissons te faisaient escorte. Tu étais la princesse des eaux. » « Oui, moi aussi j'ai rêvé cela, » dit son ami. « Et de la rive où je nageais, je te voyais. Toi, tu étais un arbre. Tes hautes branches scintillaient dans le ciel. » Et tous les autres arbres écoutaient le bruissement de tes feuillages. Tu étais le prince des forêts. Moi aussi j'ai rêvé cela, dit le garçon. Les deux enfants se taisaient, émus d'avoir fait le même rêve au même moment. Un autre midi, alors qu'ils sont au bord de l'eau, les deux enfants voient arriver l'oncle d'un pas pressé. Il s'approche d'eux. « Que fais-tu là, fainéant ? Tes fagots sont mal faits. Va couper du bois. » « Non, mon oncle, je n'irai pas, car quand j'approche mon couteau du bois vert, je l'entends, qui gémit et qui demande pitié. » Son ami ajoute « Oui, je comprends cela. Moi aussi, quand je prends un poisson dans mes mains, je le sens qui frémit et je l'entends qui appelle à l'aide. » Alors il arrive que je le remette à l'eau. L'oncle se tourne vers la fille. « Tais-toi, fille des eaux. Tu influences mon neveu. Va, je te connais, sorcière, un jour je t'attraperai et je t'écaillerai et je te ferai frire. » L'oncle repart avec sa colère. Quelque temps plus tard, le garçon aperçoit son oncle. Il sort de la maison avec un sac sur le dos. Le garçon est intrigué, il le suit sans bruit. L'oncle arrive au bord du fleuve, il ouvre son sac et jette dans l'eau un filet. Bientôt, il ressort le filet. Il ouvre sur la rive et là, le garçon aperçoit un poisson aux écailles d'or qui s'agite. Aussitôt, son cœur s'ouvre, il comprend que son amie, la princesse des eaux, est en danger. Alors, il se précipite. Son oncle le voit arriver, l'empoigne par les bras et veut le jeter loin. Mais les mains, les pieds du garçon s'enfoncent dans le sol, s'enracinent. L'oncle le lâche, court à sa maison. Il en ressort avec une hache. Il donne des coups à droite, à gauche, de jeunes arbres tombent. Pendant ce temps, le poisson d'or est retourné à l'eau, après avoir fait des soubresauts, des sursauts. Dans le courant, la princesse des eaux voit que son amie est menacée. Alors elle remonte le cours du fleuve et va demander de l'aide aux rivières, aux sources, qui se mettent à gonfler leurs eaux. Bientôt, la prairie alentour est inondée. L'oncle bascule dans les vagues qui le font rouler jusqu'à l'océan. Quelques semaines plus tard, la nature a retrouvé son calme. Le fleuve, les rivières, les sources sont retournées dans leur lit. Le garçon et la fille sont assis au bord de l'eau. Ils savent que désormais plus rien ne viendra déranger leur bonheur d'être ensemble.